Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Allez, on va quitter les champs de course bien carrés avec une pelouse tondue et des haies carrées elles aussi pour rejoindre peut-être des jardins un petit peu plus sauvages. C'est Jardin Bleu jusqu'à 10h moins 10 avec vous Philippe Munier. Bonjour.
Bonjour Gaël, bonjour à tous.
Alors, le temps commence à se radoucir, on voit quelques bourgeons dans le jardin, et ça donne envie, c'est vrai, hein, comme tous les printemps, tout le monde est dans les starting blocks, a envie d'y retourner. On a déjà beaucoup de gens à notre standard, Philippe. On commence par les accueillir ?
Oh bah oui, parce que de toute façon, là, il faut qu'on parle de jardinage, il n'y a pas de problème. Hein. Ça commence à sécher un petit peu, il fait presque doux, les jours sont longs, on aura même les soirées plus longues à partir de demain soir, donc on pourra se mettre les mains dans la terre jusqu'au coude, ça va être trop bon. Donc allons-y gaiement et répondons aux questions.
Allez, on commence avec une agapante si vous le voulez. Oh, c'est Françoise qui est à Quimper. Bonjour Françoise.
Bonjour messieurs, alors moi je vous appelle, c'est pour une amie qui habite à Lyon qui a des soucis avec ses agapantes. Mm-hmm. Vu les gelées importantes qu'il y a eu là-bas, les feuilles pendouillent lamentablement. On a l'impression qu'il y a un chat qui est venu se coucher dessus. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle coupe les feuilles ou est-ce qu'elle laisse comme ça?
Alors, j'ai déjà répondu à cette question, mais c'est pas grave. Hein. Disons que le climat particulier de Rhône-Alpes fait que c'est encore plus crucial de ne pas couper maintenant, parce que derrière, les seins de glace ne sont pas passés. Il peut très bien y avoir encore une bonne gelée qui arrive là-dessus. Donc, pour l'instant, soit elle veut faire propre entre guillemets, elle coupe, mais elle met de la paille broyée des fougères sèches pour protéger les agapantes, parce que faut pas oublier que les agapantes sont des plantes originaires d'Afrique, hein, même si c'est l'Afrique du Sud, que c'est en montagne, donc elles supportent les petites gelées, elles n'aiment pas quand même les trop fortes gelées, donc on les protège encore parce qu'il y a encore des risques de gelées un peu partout en France, hein, donc elle fait très attention, et le plus simple, le plus facile, c'est de leur ficher la paix tranquillement et d'attendre des jours meilleurs. Dès qu'elles sentiront qu'il est l'heure de redémarrer, elles redémarreront et de facto elles pousseront les feuilles toutes flappies, et on ne verra plus que les jolies feuilles vertes et bien turgescentes qui émergeront, et il n'y aura plus de problème.
Merci beaucoup.
Voilà Françoise pour votre copine lyonnaise. Vous vous rendez compte Philippe, quand même les gens, même de Rhône-Alpes, quémandent vos conseils. Hein.
C'est fou.
Allez, on va à Plomeur Baudou pour y retrouver Louis. Bonjour Louis.
C'est moins loin.
Oui, bonjour. Donc, question pour Philippe.
Ah oui.
Ça concerne le marc de café. Ça fait plusieurs mois qu'on garde notre marc de café. Je voudrais savoir comment l'utiliser et quels sont les bienfaits, justement, de ce fameux marc de café pour les plantes.
On peut lire l'avenir, déjà, mais peut-être pour les plantes.
Oui, voilà. Et encore, il faut savoir faire. Et bon, là, le doute m'étreint. Donc, le marc de café. Alors déjà, il faut quand même réagir. Qu'est-ce que c'est que le marc de café? C'est donc une graine donc qui a été torréfiée puis broyée et dont on a déjà extirpé un certain nombre d'éléments pour les boire. Donc déjà une graine, c'est très intéressant parce que la plante est allée au bout de son cycle, donc la graine elle contient la totalité des éléments que la plante a absorbé, donc elle est riche en azote, phosphore et potasse, mais dans la mesure où elle a été torréfiée d'une part puis broyée, donc il y a eu oxydation, puis on lui a fait passer de l'eau à travers pour extirper un certain nombre d'éléments, elle a été un peu affaiblie, mais c'est quand même quelque chose de très équilibré. Donc c'est un compost entre guillemets, ou en tout cas c'est un amendement équilibré. Maintenant on lui accorde plein de propriétés supplémentaires. Là aussi je suis plongé dans un doute profond. Une chose est sûre, c'est que c'est un bon produit pour mettre sur le sol, pour améliorer le sol, qui donne en plus une texture du sol qui n'est pas inintéressante. Et pour avoir fait une bêtise avec du marc de café, je déconseille de mettre du marc de café jeune. Donc là, vous disiez que vous le récupériez depuis plusieurs mois, donc c'est très bien. Il a eu le temps de vieillir.
Dans des sols, il est sec en plus.
Voilà, parce que le problème, quand il est jeune, il y a encore de la caféine bien présente, elle n'est pas encore déstructurée, elle n'est pas encore oxydée, et je pense que j'ai fait mourir une glycine, pourtant c'est quand même pas facile à faire mourir, je crois que c'est... Je l'ai fait mourir à cause de la caféine. Donc il faut faire attention, voilà.
Oui, oui.
C'est suffisamment fort, en fait, pour pouvoir faire mourir une plante puissante. Donc on y va avec douceur, avec gentillesse. C'est un compost qu'on utilise de la même manière, 1 kg par mètre carré maximum.
Ah, sinon ça empêche les taupes de dormir aussi, je crois.
Bon, cela...
Éventuellement servir de répulsif, non ?
Là, c'est sur ces points-là, je me pose des questions. Hein. On dit souvent qu'on en met au pied des carottes, des semis de carottes pour chasser la mouche de la carotte. Moi, je dois avoir des mouches de la carotte qui aiment bien le café.
Sinon, juste vite fait. Voilà, je suis en train de préparer mon sol pour mes tomates, que je vais mettre bien sûr au mois de mai, pas avant. Et est-ce que je peux mettre un peu de cendre de ma cheminée sur le sol ?
Oui, mais alors pas trop. Hein. Vraiment, on est toujours pareil, une poignée par mètre carré, parce que la cendre de cheminée, c'est très riche en potasse, donc la tomate est avide de potasse. Oui, mais d'un autre côté, ça fait remonter le pH, et qu'il faut garder un pH en dessous de 7. Donc on fait attention, on est sur une poignée mètre carré. Et tant qu'à faire, mettez une petite poignée par pied, plutôt que de l'étaler sur toute la surface.
Ah d'accord, carrément au niveau de la plantation, pas du pied, oui.
Voilà.
D'accord.
Voilà, Louis.
Mais toujours en surface, pas à l'intérieur. Hein.
Pardon ?
Toujours en surface, pas dans la terre. On la porte en surface et on griffe, mais on la fait pas rentrer, on la met pas dans le trou de plantation, par exemple.
Ah, voilà. Ah, bah oui, j'avais compris le contraire, par contre. Hein. Voilà. Merci, bonne journée, au revoir.
Merci, bonne journée à vous. Allez, on va à Lorient, côte nord, côte sud, hein, Pleumeur-Bodou à Lorient. C'est la magie de la radio. Bonjour Hélène.
Oui, bonjour. C'est une question concernant des spatifilums. Alors, j'ai 3 spatifilums. J'ai un grand qui fleurit 2 fois par an, mais les petits qui ne fleurissent pas. Alors, est-ce que c'est plus difficile à faire fleurir les petits ?
Alors, théoriquement, non. Faut rappeler donc le spatifilum, c'est une plante de tropicale, de sous-bois. Donc, c'est une plante qui aime avoir de la lumière sans soleil direct, qui aime bien la fraîcheur, qui aime bien l'atmosphère humide. Donc, s'il y en a un qui fleurit et que les autres ne fleurissent pas, c'est que vous devez apporter à celui qui fleurit ce qu'il lui faut. Donc, théoriquement, les autres, on doit avoir la même chose. Alors, il y a quand même un truc qui est très important et que souvent on oublie pour les plantes tropicales, c'est que sous les tropiques, il y a 2 saisons, saison sèche, saison humide, et qu'il faut absolument imposer une saison sèche à ces plantes. Je sais que ça, le jardinier est toujours un petit peu traumatisé de devoir arrêter d'arroser. Il se dit mais elles vont mourir de soif. Non, il faut qu'elles souffrent de la soif sans mourir de soif. Hein. Il faut vraiment, bien mesurer la limitation d'arrosage de manière à ce qu'elles aient l'impression d'être en saison sèche. C'est la période de repos pendant laquelle elles préparent leurs fleurs. Donc si on leur impose une bonne saison sèche, et bien derrière elles vont repartir en fleurs. Et quelque part peut-être que vous ne traitez pas de la même manière, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer, mais faites très très attention à ça. C'est en général là qu'est le secret de la floraison des plantes d'intérieur, parce que ce sont toutes des tropicales, ce sont toutes des plantes en général d'ombre, et donc elles ont toutes besoin de ce type de fonctionnement, d'une part une bonne lumière importante mais sans soleil direct, et d'autre part un repos, donc une période où on arrose très très peu pour qu'elles puissent se reposer et préparer leurs fleurs.
Voilà, Hélène. Non,
je vais les faire se reposer alors.
Voilà.
Un peu de stress.
Merci
hydrique.
Merci beaucoup, messieurs.
Eh bien, bonne journée à Lorient. Vos questions reviennent dans un instant. 02 98 53 65 65. Vous connaissez cette émission, c'est la vôtre. C'est le Jardin Bleu, comme tous les samedis.
Philippe Mounier répond à toutes vos questions. 02 98 53 65 65.
And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you see- songs, thinking this is the life. When you wake up in the morning and your head feels towards the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. When you wake up in the morning and your head feels towards the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
The Life, c'est Amy MacDonald sur France Bleu Brésil.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Mais oui, je suis sûr que vous aussi, vous trépignez d'impatience de pouvoir retourner dans le jardin et recommencer à passer un peu de temps dans cet espace que vous modelez au fur et à mesure du temps. C'est le Jardin Bleu, c'est Philippe Munier au 02 98 53 65 65 qui répond à vos grandes et à vos petites questions concernant le jardin. Philippe, si ça vous dit, on va accueillir Bernadette qui nous appelle de Plestin-les-Grèves. Bonjour Bernadette.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'aurais voulu demander comment replanter au moins une douzaine de grosses racines de dahlia. Est-ce qu'il faut les séparer? Est-ce qu'il faut les laisser entières? Les laisser comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça?
Alors déjà, c'est un petit peu tôt pour s'occuper des dahlias. Il faut faire attention.
Non, mais je les prépare là.
D'accord, oui, mais faut les mettre sous tunnel ou sous serre. Il ne faut pas les mettre dehors. Hein, donc. Alors, il faut bien regarder, en fait, dans le tubercule, dans la patate, hein, il y a un tout petit germe qui est tout en haut. Si, on sépare les patates donc, qui sont retenues par cette partie commune de manière un petit peu anarchique, hein, sans faire attention, on risque de casser le germe. Et si on casse le germe, la patate, elle est fichue, elle va pourrir et il n'y aura rien qui démarrera. Donc, il faut faire vraiment très, très attention quand on sépare les dahlias, de bien garder les petits yeux. Ils sont formés déjà maintenant. Hein, donc, là, il faut vraiment faire ça avec un cutter très bien affûté. Je rappelle que lame de cutter contient une graisse qui n'est pas bonne pour la cicatrisation. Donc il faut d'abord les laver parfaitement à l'alcool à brûler. Hein. En plus, ça les infecte. Et là, vous séparez en faisant très attention à conserver à chaque fois donc un œil par patate. Ou des fois, on est obligé de garder deux patates hein, pour un seul œil. Et une fois que vous avez fait ça, vous les mettez. Alors le dahlia est relativement gourmand. Donc moi, je les mets dans un mélange grosso modo moitié-moitié. Moitié compost de jardin, moitié terre de jardin. Hein, donc bien mélangé. Et bien au chaud, de façon à ce qu'elle puisse démarrer tranquillement. Et il faut faire attention parce que qu'est-ce qui est plus les germes, les jeunes germes de dahlia que les limaces, et ben je sais pas, mais en tout cas voilà, ça attire les limaces de 15 km à la ronde certainement. Donc si les eustaces doivent être à peu près sur le même truc. Donc on fait très très attention aux jeunes pousses parce qu'elles sont broutées activement par les petites limaces et les petits escargots.
Donc il faut bien les séparer, on laisse pas ça entier comme ça.
Non, c'est mieux. Alors, ce qui peut arriver, c'est à la longue, c'est une petite dégénérescence du dahlia. Ça peut arriver. Alors, dans ces cas-là, faut attendre un petit peu plus, faut relancer la culture de dahlia un petit peu plus tôt de toute la touffe. Et au lieu de faire de la séparation de patates, on prélève, là encore, avec un outil parfaitement affûté, désinfecté, on prélève juste le bourgeon naissant avec un tout petit bout de la patate et on fait de la bouture. Et ça ne dégénère pas. Mais c'est un petit peu plus technique.
D'accord. Mais On peut pas les planter directement. À quel moment qu'on peut les planter directement?
On peut les planter directement aussi, hein, mais on a toujours intérêt à les faire redémarrer d'abord, parce qu'au moment où on les plantera, elles seront suffisamment hautes pour ne plus attirer l'appétit des limaces.
Oui, mais on les dérange quand on les replante comme ça.
Si vous les plantez en pot, en fait, au moment de la séparation, vous les mettez en pot. Hein, donc le fait de sortir du pot pour les mettre en pleine terre, en général, c'est un stress moins important. Il y a un petit stress, effectivement, mais beaucoup moins important. Et surtout, on attend tranquillement, fin avril, début mai, que les plants soient suffisamment hauts. Et à ce moment-là, les limaces s'intéressent beaucoup moins que quand c'est des tout jeunes germes.
D'accord. Voilà. Des lauriers roses qui ont gelé, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Des lauriers roses congelés, on enlève tout ce que je l'ai, puis on croise les doigts pour que le reste redémarre.
D'accord.
Normalement, le laurier rose résiste jusqu'à moins 10, moins 12, donc il y a les parties aériennes congelées, donc vous supprimez tout ce qui est noirci, et de toute façon, le laurier rose fleurit sur le bois qui naît dans l'année, donc tombe bien, ça va provoquer l'émergence d'un nouveau bois qui va fleurir, ne vous inquiétez pas.
Non, il fait jamais moins 10, moins 12 à plus dans les grèves, sinon la mer elle gèle.
Ça procède tranquillement la semaine dernière.
Oui, c'est vrai. Bonne journée Bernadette, merci de vos questions.
Merci à vous.
Allez, vos questions au 02 98 53 65 65 reviennent dans un instant.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
France Bleu Brézizel présente la Braise Color le dimanche 13 mai au Relais Quirion. Venez vous défouler en famille en parcourant à votre rythme les courses de 1 ou 5 km et traversez les différentes zones de couleurs et de mousse pour ressortir un maximum bariolé. Réservez déjà votre place sur braisecolor.fr, tarif préférentiel pour les premiers inscrits. La Braise Color au Relais Quirion près de Brest, un événement France Bleu Brézizel. France Bleu Brézizel, votre radio connectée. Pour suivre toutes les actus de France Bleu Brézizel, pour voir les photos, les vidéos, pour retrouver les articles et réécouter les émissions, pour faire la météo ensemble et réagir à l'actualité, rendez-vous sur Facebook et suivez la page de France Bleu Brézizel.
France Bleu vous fait aimer le cinéma.
Gros.
L'histoire d'un jeune chien loup recueilli par une tribu indienne.
Ta mère ne sera plus là maintenant. Il est temps pour toi de grandir.
Et contraint d'affronter le monde, parfois cruel, des hommes.
T'es pas si méchant, finalement.
Cro-Blanc, d'après le chef-d'œuvre de Jack London, avec les voix de Virginie Efira, Raphaël Persona et Dominique Pinon. Le 28 mars, au cinéma. Les émissions et la bande-annonce sur francebleu.fr.
France Bleu présente Promesse, le nouvel album de Patrick Fiori. Un album réalisé avec des complices de longue date, mais aussi de nouvelles figures de la pop française.
Patrick Fiori, nouvel album, Promesse. Un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu Brézizel.
Un petit tour par Marseille avec Patrick Fiori et Soprano qui nous parle de ces quartiers populaires de Marseille. Dans cette chanson chez nous, c'est Plan d'Aou et Herbelle de quartier marseillais.
Vous là-bas, vous irez là, bâtiment 23. Toi, tu fais quoi, l'asmala? Mettez-vous par là. Territali, toi, malien, vous serez voisins. Un jour, on s'est posé là. Vous, toi, la quoi, c'était toi, pas de charabia. C'est provisoire, on verra, 30 ans qu'on est là. L'école en bas, le tabac, deux boutiques ici, et c'est là qu'on a grandi. On avait traversé les mers, on avait tout laissé.
Que vous tout rap et tous les clichés. On
Patrick Fiori et Soprano sur France Bleu Brésil.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Et oui, encore quelques minutes pour nous rejoindre et poser vos questions à Philippe Munier. Philippe, je vous propose d'accueillir Annick qui nous appelle d'Ennebon. Bonjour Annick.
Oui, bonjour Gaëlle, bonjour Philippe.
Bonjour.
Je voulais savoir quand planter de la lavande.
Un air de sud dans votre jardin.
Oh, la lavande, ça peut se planter sans problème maintenant. Hein. On est grosso modo en fin de plantation des plantes à racines nues, hein, des arbres à racines nues, et au début de période de plantation de toutes les plantes à feuillage persistant. La lavande, c'est un feuillage persistant, c'est une plante qui résiste relativement bien au froid, hein, parce que des fois dans la Drôme, il peut faire très très froid, et la lavande, c'est, je dirais, quelque part le symbole de la Drôme. Donc on peut la planter sans aucun problème maintenant. La seule chose, il faut faire très attention à l'endroit où on la plante, c'est-à-dire qu'il faut que le sol soit bien drainant. Alors d'aller mettre dans un trou, fond de trou, des cailloux, ça sert à rien, au contraire, ça sert juste à faire revenir plus d'eau si c'est un endroit mouillé. Donc on met toujours la lavande, il faut qu'elle soit au-dessus, hein, donc en haut d'un muret, ou sur, en haut de dans une pente, et bien plus vers le haut du jardin si le jardin est en pente, de manière à ce que l'eau ne fasse que passer sur ses racines et puisse s'écouler tranquillement vers le bas, et vers le bas on mettra des plantes qui aime avoir les pieds dans l'eau, mais la lavande, c'est pas son cas. Hein. Elle pourrira systématiquement si vous la mettez dans un coin qui est trop mouillé.
Et dans quelle terre, Philippe?
Alors, dans une terre bien... Dans ce cas-là, si on trouve, par exemple, un emplacement au-dessus d'un muret, eh bien, on fait un bon grand trou et on va le re-remplir avec un mélange où on mettra un tiers de sable grossier ou même de cailloux assez gros, hein, un tiers de compost et un tiers de bonne terre de jardin. En général, ça suffit largement pour la lavande. Et après, faire attention tous les ans, juste après la floraison, il faut tailler la lavande le plus court possible en laissant, on va dire, grosso modo, 1 cm de verdure, hein, de
ah
feuilles.
Oui.
Hein, donc, il faut vraiment la tondre assez ras, parce que c'est là-dessus qu'elle va redémarrer et du coup, elle restera toujours touffue, toujours toute ronde, toujours toute belle, au lieu de partir un petit peu.
Oui.
Des fois, les lavandes font vraiment peine à voir parce qu'on dirait vraiment une pauvre végétale qui se languit sur le sol et ça fait un peu triste.
D'accord. Eh ben, je vous remercie.
Voilà, Annick, bonne journée.
Il n'y a plus qu'à maintenant.
Allemand, merci. Au revoir.
Au revoir. Allez, partons rejoindre Christiane, qui est à Cléguérec. Bonjour, Christiane.
Bonjour, messieurs.
Alors, allez-y, vous pouvez poser votre question.
Mon problème est le suivant. J'ai des céanotes rampants qui ont gelé. Les feuilles sont toutes noires. Et donc, je souhaitais savoir si je les laissais tranquilles ou si je taillais tout ça et à quelle hauteur.
Alors, les céanotes, il ne faut pas oublier que c'est des plantes originaires de Californie, donc c'est pas vraiment des plantes qui aiment le gel. Par contre, on est souvent assez étonné de la capacité quand même à redémarrer de certaines céanotes. Tout dépend là aussi de la qualité du sol. Plus le sol est drainant, plus elle redémarre facilement et meilleure est l'exposition, mieux ça redémarrera. Donc tout dépend donc de l'exposition, de la qualité du sol. Donc pour l'instant, il est à mon avis urgent de ne rien faire. Donc d'attendre tranquillement, de voir et très rapidement, hein, dans le courant du mois d'avril, vous allez avoir apparaître...
Comment la plante réagit.
Voilà, vous allez avoir apparaître des petits yeux ou pas. Et s'il n'y a pas de petits yeux, on coupe tout et on met quelque chose d'autre. Sachant que, bon, que les céanotes, on sait que ça a une durée de vie limitée. Hein. Maintenant, on commence à avoir du recul sur les céanotes en Bretagne. Et une céanote, ça a une durée de vie grosso modo d'une dizaine d'années. Donc, si elles avaient déjà quelques années, le fait de les éliminer maintenant, vous ne gagnez qu'un an ou deux pour trouver quelque chose d'autre à mettre à la place.
D'accord. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Philippe.
Mais avec
bonne
plaisir.
Journée à vous.
Au revoir, Christiane. Au revoir. Bonne journée à Cléguérec. Allez, un petit tour à Quimper pour y retrouver Jocelyne. Est-ce que le laurier rose y gèle? Tiens, est-ce qu'il fait moins 12 à Quimper? Bonjour, Jocelyne.
Bonjour. Alors voilà, oui, ma question c'était quand est-ce qu'il fallait tailler un laurier rose?
Alors la taille.
Sur Internet, je vois printemps et d'autres sites octobre, donc je ne sais pas.
C'est pas la même chose, mais ça aussi Internet.
Alors, voilà, je vais remettre les choses en place. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les infos qu'on trouve sur Internet.
Oui.
La taille d'octobre sur Internet, c'est une taille pour le midi de la France. Hein, là où il ne gèle pas beaucoup dans 90% des cas. Ailleurs, en France et en Navarre, ça sera plutôt fin d'hiver, début de printemps. Donc, grosso modo, entre le 15 mars et le 15 avril. Et là, on peut effectivement, soit ça a gelé et on rabat, on enlève tout ce qui a gelé, soit même ça n'a pas gelé parce qu'on l'a protégé, on a mis un voile de forçage, il était à l'abri, etc. Et dans ce cas-là, de toute façon, hein, comme je le disais tout à l'heure, ça fleurit sur le bois de l'année. Donc, il faut absolument tailler pour obliger le bois à redonner des nouvelles tiges qui seront florifères. Alors, il ne faut pas tailler trop sévère non plus. Hein. Il faut trouver le juste milieu. Ça, c'est un petit coup d'habitude à prendre. Mais il faut quand même être relativement dur, entre guillemets.
Oui.
Et puis, dans la foulée, le même jour, ce qui est très important aussi, c'est que si on fait une taille, il faut apporter à la plante à manger. Donc, si c'était une plante en pot, on va faire un surfaçage. Donc, enlever tout le terreau de surface sur tout ce qu'on peut enlever sans abîmer les racines, évidemment, et la remplacer par un très bon terreau. Donc là, toujours pareil, hein, on est sur des mélanges un tiers si on le fait soi-même, ou on prend un terreau plante méditerranéenne en jardinerie. Ça coûte plus cher, ils sont pas forcément meilleurs, d'ailleurs. Et puis si c'est une plante en pleine terre, eh ben, on va gratter un petit peu autour et là aussi apporter un très bon compost. Simplement en pleine terre, un compost suffit. Compost maison en général sont très très équilibrés et un bon compost maison bien décomposé évidemment. Et puis c'est reparti pour un second tour.
Oui, parce qu'il fait au moins 6 mètres de circonférence. Parce que c'est une maison qu'on vient d'acheter, donc il était déjà en pleine terre. Je devrais tailler beaucoup, quoi.
Alors, pour la première année, taillez pas trop, parce que si on taille trop une plante qui était très importante, elle va avoir qu'un seul objectif, c'est de reprendre le volume qu'elle avait. Donc la première année, il ne faut pas tailler trop sévère, il faut un peu fatiguer la plante et du coup, vous taillez un petit peu, vous enlevez grosso modo un quart à peu près des longueurs un petit peu partout pour conserver quand même un certain volume. Et puis regardez comment elle évolue, mais surtout si c'est un vieux laurier rose, bon il est bien installé, mais il a aussi besoin de manger, donc faites-lui un bon apport de compost.
D'accord.
Voilà Jocelyne.
Merci beaucoup. Bonne journée
à Quimper. Vos questions dans le jardin bleu reviennent dans un petit instant. Dernière ligne droite, hein, 02 98 53 65 65.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Un feu s'éteint en mer, c'est un ami que l'on perd. La jument, la vieille armène, ne tremblez pas. Les embruns chargés de sel illuminent d'un arc-en-ciel les sentinelles. Mer, sur les îles en enfer, Triagos, la Vierge, Stif, ne tremblez pas. Déferlante d'écume blanche, sonnez l'heure de la revanche des sentinelles. J'entends les cloches.
Laurent Gourvès, auteur, compositeur, interprète plourinois, ici en duo avec Clarisse Lavanant dans Les Sentinelles.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Oui, avant de retourner au jardin, j'ai quand même cette inforoute à vous donner, très importante. Soyez très vigilants si vous arrivez du côté de Quimper à la sortie Gourvilly, dans le sens Quimper-Brest. Il y a un objet sur la chaussée, c'est une échelle de toit et qui est sur les deux voies, donc soyez très vigilants. Merci à Nelly qui nous a appelé au 02 98 53 65 65 pour vous prévenir de cette échelle de toit qui est sur les deux voies, donc vous ne pouvez pas y couper si vous êtes dans le sens Quimper-Brest à la sortie Gourvilly. Soyez vigilants à cet endroit, bien entendu, et puis où que vous soyez. 02 98 53 65 65, on fait toujours la route ensemble sur France Bleu.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite. 02 98 53 65 65.
Oui, dernière ligne droite dans ce jardin bleu de ce samedi avec vous, évidemment, Philippe Munier. On va accueillir Marie qui nous appelle de Quimper. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. J'appelle concernant un pierriss.
Un pierriss.
J'ai des soucis, il ne semble pas démarrer là avec le printemps. Et les feuilles sont un peu jaunies. Et puis donc, bon, c'est un plant qui a une quinzaine d'années. Est-ce que ça dure peut-être pas plus longtemps que ça, je ne sais pas.
Ah, c'est peut-être l'occasion de rappeler, Philippe, ce qu'est un pierriss.
Alors, pierriss est un très joli petit arbuste, un pierriss formosa et d'autres, hein, donc originaire d'Asie. C'est une plante de terre de bruyère, donc qui adore les terres bretonnes. C'est une plante qui, normalement, doit pouvoir arriver tranquillement.
Ouais, vers, j'entends pas bien, excusez-moi.
Ah, c'est une plante qui devrait arriver tranquillement vers une quarantaine d'années dans un jardin. Donc, s'il a que 15 ans, c'est pas normal qu'il fasse la tête. Par contre, malheureusement, depuis quelques années, il y a une attaque de tigres. Et oui, les tigres attaquent les pierriss, mais le tigre en question, c'est une petite mouche, toute petite mouche, qui est un insecte piqueur-suceur, qui donc pompe activement la sève du pierriss, pond ses œufs sous les feuilles. Et normalement, si vous prenez une feuille et que vous regardez, vous devez voir en dessous une coloration bizarre d'une part. C'est pas vert, hein, c'est une espèce de bleu zinc. Et puis il y a plein de petits points noirs, c'est les crottes de la bestiole. Et puis il y a plein de petits, tout petits points marrons. En général, c'est chaque endroit où la bestiole a piqué et la plante a réagi en mettant autour une cicatrisation, mais il y a tellement et tellement de piqûres qu'au bout d'un certain temps, elle lâche prise. Et dans ces cas-là, parce que là, il devrait être en pleine fleur, votre pierriss. Donc, s'il n'est pas en pleine fleur, c'est que le tigre a réussi à le dévorer, malheureusement. Vous pouvez tenter le coup. Il faut toujours tenter un peu le coup, d'une part d'attendre encore peut-être une semaine, voir s'il y a un démarrage, et puis de le tailler très sévère, de lui apporter un bon compost et de voir comment il va réagir. Peut-être il va redémarrer, j'en ai eu un il y a quelques années donc qui a redémarré, sachant qu'après, eh bien, il suffit, si je puis dire, de passer régulièrement avec un pulvérisateur dans lequel, enfin, donc moi je mets de l'eau de pluie et un tout petit peu de savon noir, pas beaucoup, et un tout petit peu de vinaigre, pas beaucoup, hein, pour un pulvérisateur de 15 litres, je mets 3 cuillères à soupe de savon noir et 3 cuillères à soupe de vinaigre d'alcool, hein, et je pulvérise sous les feuilles pour faire mourir les œufs et les larves, parce que l'insecte, lui, s'envole. Mais par contre, ça fait crever les œufs et les larves. Donc, sachant que la période de ponte, elle a lieu grosso modo de la fin avril à la fin mai et de la fin septembre à la fin octobre. Donc, il y a 2 mois de l'année où il faut passer.
Un peu à la fin avril, oui.
Voilà, il faut passer pour oxyre ces sales bébêtes. L'efficacité est assez bonne, hein, parce que tous ceux que j'avais, j'ai pas mal de pierriss, sont plutôt beaux, sont même très beaux cette année.
Et combien de vinaigre d'alcool?
Pareil, 3 cuillères à soupe. Donc pour 15 litres d'eau, hein, donc vous voyez, c'est quand même...
1 litre d'eau, oui. D'accord, bon, moi je vais tenter. Comme vous dites, j'attends, je le surveille tous les jours. Et puis, il est tellement beau habituellement que ça...
Là, il devrait être en fleurs, c'est ça qui est un petit peu inquiétant, quoi.
Oui.
Bon.
Bon, bah, merci beaucoup, bonne journée à vous.
Voilà, Marie, bonne journée. Eh ben voilà, je crois que nous arrivons déjà au terme de ce jardin bleu de ce samedi. Ceux qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions peuvent revenir bien entendu la semaine prochaine. Et puis il y a toujours le web hein, pour vous joindre, Philippe, et puis vous y répondez chaque
matin. Et nous
réécouter
aussi.
Et nous réécouter, c'est vrai.
Ah oui, si vous n'avez pas très bien entendu ce qui était le cas de Marie, eh bien vous pouvez aller atteindre le podcast et du coup vous mettez l'ordinateur à fond. Voilà. Bon, peut-être que je parle pas assez fort, je sais pas. Mais voilà.
On allait se quitter, mais il y a Franck à Cléder qui veut poser une petite question. Nous, on est comme ça, on accueille tout le monde. Bonjour Franck.
Oui, bonjour.
Alors, vous voulez déplacer un arbre, hein, c'est ça?
Oui, voilà.
Alors, allez-y.
Donc, il fait déjà 40 cm de diamètre, donc je voulais savoir est-ce que c'était
de
possible,
diamètre.
Quoi.
Une belle bête, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Alors déjà à cette période-ci, c'est même pas la peine d'y penser. Hein, là, c'est opération fichue. Tenter le coup éventuellement à la Sainte-Catherine, donc en fin novembre 2018. Oui. Mais déjà rien que la taille de l'arbre, si vous n'avez pas de moyens mécaniques d'importance,
ça y a pas de problème.
Bon, bah, c'est la seule solution, c'est de récupérer déjà de le tailler, de le cerner dès le on va dire le début de l'été. Hein, le cernage, c'est couper toutes les racines, donc à la bêche, toutes les racines qui sont à l'aplomb des branches.
Donc
vous coupez éventuellement si vous avez une mini-pelle avec un godet fin, bah vous faites carrément une petite tranchée que vous re-remplissez après d'un très bon terreau parce que du coup la plante va émettre plein de petites radicelles et après à la Sainte-Catherine, mais avec une grosse pelleteuse, mais là pour un arbre de 40 cm de diamètre, il faut vraiment une bête, vous récupérez donc toute cette motte avec ces toutes belles racines que vous avez favorisées pendant l'été et vous prenez la totalité. Il faut avoir préparé le trou d'accueil hein, de manière à ce qu'on ne fasse que le sortir d'un côté et aller le poser
et le remettre
de l'autre,
quoi.
Et, là, et derrière il faudra arroser pendant quelques années et quand même pas mal croiser les doigts.
Voilà Franck,
voilà, très bien.
Allez, bonne journée et Et bah bonne chance quand même, parce que c'est un arbre de 40 cm de diamètre, c'est pas.
Oui, là, c'est des fois ça passe et puis des fois ça casse.
C'est ça, c'est la nature, hein. On peut pas tout maîtriser. Philippe, est-ce que vous avez un petit rendez-vous?
J'ai des petits rendez-vous. J'ai plusieurs. Alors, j'ai déjà plein de rendez-vous, mais je vais pas vous les donner parce qu'ils sont tellement nombreux que ça fait.
Ah bon?
Je rappelle.
C'est le printemps aussi.
Oui, voilà. Mais je rappelle surtout que c'est depuis le 20, du 20 au 30 mars, comme tous les ans, pour la 13e année consécutive, c'est la semaine pour les alternatives aux pesticides. Donc, je rappelle que la loi Labbé, de toute façon, interdit déjà les collectivités d'utiliser des pesticides dans la gestion des communes, etc. Mais, à partir du 1er janvier 2019, ça sera les particuliers qui n'auront plus accès à ces produits dangereux, donc dangereux pour notre santé, dangereux pour l'environnement. On a entendu cette semaine
là, oui.
La disparition de ces oiseaux, de ces insectes, etc. C'est complètement
c'est
aberrant.
Donc,
l'agriculture et l'utilisation de pesticides, donc l'utilisation de pesticides mal faite et tout court de pesticides dangereux, faut arrêter les bêtises. Donc voilà, il y a une semaine.
Les générations futures ne nous féliciteront pas. Hein.
Non, je pense qu'on leur laisse une sacrée cochonnerie à la place de terre. Mm-hmm. Donc on peut apprendre à jardiner sans pesticides et c'est ce que propose depuis donc 13 ans la semaine pour les alternatives aux pesticides. Donc toutes ou quasiment toutes les collectivités bretonnes sont engagées dans cette semaine. Donc prenez votre journal habituel, écoutez votre radio habituelle. Et puis regardez un petit peu les tracts à la librairie, à la boulangerie ou à la médiathèque, enfin bref, là où vous promenez, et vous trouverez forcément une activité, une soirée, un film, un atelier, etc., quelque part pas loin de chez vous. Donc profitez-en, ça ne dure qu'une semaine, ça dure que... Voilà, cette année, ça joue les prolongations, je crois que ça va jusqu'au 3 avril quasiment. Donc voilà, il y a plein de choses à voir, à faire et à apprendre partout en Bretagne. Ça, c'est la première chose. Et puis moi, d'ailleurs, dans ce cadre-là, je serai dans un magasin de jardinerie quelque part vers Dinan cet après-midi. Hein, bon, c'est pas dans la zone d'écoute, mais peu importe. Et puis sinon, vous pouvez aussi, toujours dans la même logique, hein, aller vous promener à Lanoué. Donc c'est à côté de Josselin, à la ferme Lombricole de Gwenola et je ne sais plus son prénom d'ailleurs, il y a Gwenola et Pascal, voilà. Mm-hmm. Qui font donc du lombricompostage, mais qui vendent aussi des petits lombricomposteurs qu'on peut mettre soi-même à la maison. En plus, ils font aussi du poulet bio, enfin des volailles bio. Et ils ont invité cette année Joël Mahé, qui est un producteur bien connu de camélias et plantes de terre de bruyère. Et puis comme un petit côté gourmand, ça fait pas de mal, et ben ils ont Pascaline Laurent qui vient avec du pain d'épices et du miel, miam miam.
Oh, ouais.
Voilà, donc on peut y aller. Et puis quand vous aurez bien, vous serez bien, comment dirais-je, rassasié, si je puis dire, vous pourrez aller faire un petit tour à dans la Société d'horticulture du Baléon, parce qu'ils font une bourse aux plantes cet après-midi, de mémoire, c'est entre 15h, parce que le lien ne s'ouvre pas sur mon PC, ça ne veut pas. Donc, de mémoire, c'est entre 14 et 16, c'est à Plabennec, et donc c'est une bourse aux plantes gratuite. Et puis demain, toujours dans le cadre de la semaine sans pesticides, si vous êtes sur Lannion, eh bien, il y aura une bourse aux plantes aussi, organisée par l'association Jardin Passion. C'est sur les bords du Léguerre, c'est sur le bois d'amour, et oui.
Oh, c'est joli.
Hein, et puis on pourra faire connaissance aussi avec les incroyables comestibles de Lannion. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire ce week-end. C'est le printemps qui est dans nos jardins, mais un printemps, un vrai printemps, pas un printemps silencieux, un printemps avec des oiseaux et des insectes.
Et ben voilà, parfait, on sait tout. Et il n'y a plus qu'à s'y mettre et puis à protéger notre planète. Et ça commence par le jardin. Merci beaucoup Philippe. À très bientôt.
Et eh ben bonne journée, bon week-end.
Eh oui, canavo.
Canavo.
France Bleu Brésisel. France Bleu.